Allons commencer par lire dans Apocalypse, chapitre 5, 1 à 10. Apocalypse, chapitre 5, 1 à 10. Au fait, avant ce moment, nous avons eu un temps de louange et d'adoration qui était assez explosif. Et c'est ça, en même temps, le thème de notre exhortation de ce matin. C'est le cantique des rachetés, le chant des rachetés. Voilà. Donc nous voulons parler du chant qui sort du cœur de celui qui a été sauvé. Voilà, c'est ça notre thème. Ce qui doit être la source de notre force et le point central de nos réunions, de nos rencontres, c'est de nous souvenir du salut, de nous souvenir du sacrifice de Jésus qui nous a lavés de nos péchés et nous a donné la vie éternelle. Ce souvenir-là doit être le point central de nos réunions. Notre thème, c'est ça, le chant des rachetés, dont les rachetés sont des gens qui ont été sauvés alors qu'ils étaient esclaves. Voilà. Nous commençons par lire Apocalypse 5 afin que nous comprenions l'ambiance dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Apocalypse chapitre 5, 1.
Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurai beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, « Ne pleure point. Voici, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis, au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. » Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre.
Voilà ce que. Quelle est l'ambiance qui est au ciel lorsque les gens voient l'agneau de Dieu dans son œuvre de salut, lorsqu'il a pris le livre qui était le livre de la colère de Dieu, mais lui, il a pu faire face à cette colère. Parce qu'il avait déjà subi à la croix pour nous. Il avait pris sur lui nos péchés et a subi la colère de Dieu à la croix. De sorte que ce jour-là, tous ceux qui se réfugient en lui étaient dans une grande joie. Et donc il disait, tu es digne de prendre le livre. On a dit qu'il chantait un cantique nouveau. C'est-à-dire, c'est quoi un cantique nouveau? C'est un cantique chaque jour renouvelé. C'est-à-dire, même si aujourd'hui je dis que Christ est mort pour moi, demain, quand je vais le dire, ça va avoir un esprit nouveau encore, un sens beaucoup plus fort que hier. C'est ça que la veille. C'est ça un cantique nouveau. Donc à chaque fois, tu es renouvelé dans l'esprit pour chanter le cantique. À chaque fois, tu ressens une joie nouvelle d'être sauvé, c'est ça le cantique nouveau. Un cantique qui vient de l'esprit, qui vient de la reconnaissance, qui vient des tripes. C'est ça qu'il est dit, il chantait un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Donc ces gens-là, qui sont toute une multitude, ils louent Dieu en disant « Merci, merci Jésus, parce que tu es l'agneau qui t'est sacrifié afin que nous, nous recevions la vie. » Ces gens, puisqu'ils sont au ciel, ont un sens aigu, hein, un sens aigu des réalités. Les gens qui ont connu ce qu'on appelle des expériences de mort imminente, ils racontent qu'ils ont un sens après aigu de tout. Ils voient tout, ils sentent tout. Ils ont un sens aigu des réalités. Ils ont une conscience aiguë des réalités. Et ces gens-là réalisent plus fortement que nous aujourd'hui. Mais nous voulons que ce soit le contraire désormais. Et nous voulons réaliser quand même. Mais eux, ils réalisent puisqu'ils ont des corps renouvelés. Ils réalisent beaucoup plus que nous le poids du péché que nous avions. Ils réalisent plus que nous la puissance du salut de Dieu, l'amour de Dieu. C'est pourquoi leur chant est nouveau à chaque fois. Leur chant est renouvelé. À chaque fois qu'ils pensent au salut, ils commencent à chanter de joie, à chanter d'amour pour Dieu, parce qu'ils se rendent compte réellement d'où ils ont été tirés. Ils s'en rendent compte plus clairement que nous. Voilà. Nous avons encore des mémoires qui flanchent, qui oublient, qui perdent aussi de réalité imminente, immanente. On a des mémoires qui perdent parfois de solidité, alors qu'eux, ils gardent une mémoire fraîche, claire. Donc pour eux, c'est comme si leur salut, c'était la veille. Et donc du coup, à chaque fois, leur joie est puissante, renouvelée, de chanter le Seigneur. C'est ça notre thème, le chant des rachetés. Un racheté, c'est quelqu'un qui était perdu, qui était esclave, livré, mais que quelqu'un d'autre vient racheter. Donc il est dit dans la parole de Dieu que nous étions perdus dans nos péchés et Jésus-Christ nous a rachetés par son sang précieux. Il est mort à la croix, il a payé à notre place, il a payé la rançon et il a été échangé à nous. C'est nous que le diable voulait, alors Jésus s'est présenté à notre place, il a été crucifié, il a subi la colère de Dieu parce qu'il a pris nos péchés sur lui, il a subi les affres des démons, les attaques des démons, parce qu'il a pris notre place, mais il a triomphé d'eux, et il a assouvi la colère de Dieu par sa mort à la croix, de sorte que quiconque croit en Jésus devient un racheté. Quand tu crois en Jésus, tu es racheté, tu deviens une nouvelle personne qui n'est plus livrée à l'esclavage du mal et du péché, mais qui vit désormais sous contrôle de Dieu par son esprit, qui vit désormais portée par Dieu par son esprit et qui est désormais éternelle. Donc tu deviens éternel, destiné au ciel. Tu as changé de camp. Tu es dans le camp des puissants, dans le camp des êtres glorieux de Dieu lui-même. C'est ça la réalité d'un racheté. Et donc ces gens-là, quand ils pensent à ça, ils commencent à chanter pour l'agneau. Voilà, c'est ça notre thème d'aujourd'hui, le chant des rachetés. Nous voulons dire que chaque réunion des chrétiens doit être... il faut qu'il y ait le chant des rachetés dans cette réunion-là. Il faut qu'il y ait le souvenir de ce que Jésus a fait pour nous. C'est très, très important. Sinon, ça montre qu'on n'a pas compris grand-chose. Si vraiment nous avons compris ce qui s'est passé à la croix, si vraiment nous avons compris ça, nous adorerions le Seigneur chaque jour, tel que c'est écrit dans Apocalypse 5 qu'on vient de lire, à chaque fois qu'on a une prière, même en famille, la prière du soir, eh bien, il faut qu'on soit dans cet esprit-là. Seigneur, merci de m'avoir sauvé. Nous allons dire pourquoi c'est très important. Parce que, premièrement, nous commençons par le premièrement. Nous lisons Luc 7, 36 à 50. Nous allons donner trois raisons pour lesquelles c'est très important d'élever Luc 7, 36 à 50, d'élever le chant des rachetés à chaque fois que nous nous retrouvons. Nous sommes obligés de prêcher parce que nous sommes encore dans un corps de chair. C'est pourquoi nous sommes obligés de prêcher. Mais normalement, ça ne doit pas être prêché. Normalement, ça doit être dans le cœur de chacun, puisque si vraiment tu es racheté, ça doit germer en toi cette adoration. Mais bon, comme nous sommes encore remplis d'obligations, remplis de choses à faire, nous oublions. Mais Dieu a mis des prédicateurs pour nous rappeler ces choses-là. C'est ce que nous sommes en train de faire là. Mais ça devrait être naturel, venir tout seul. Et nous lisons Luc 7, 36 à 50.
Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici, une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums et se tint derrière lui aux pieds de Jésus. Elle pleurait et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les embrassa et les oignit de parfums. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, « Si cet homme était prophète, il saurait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il saurait que c'est une femme pécheresse. » Jésus prit la parole et lui dit, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. » « Maître, parle, » répond-il. Un créancier avait deux débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il les remit à tous deux leur dette. Lequel l'aimera le plus ? Simon répondit, « Celui, je pense, auquel il a le plus remis. » Jésus lui dit, « Tu as bien jugé. » Puis, se tournant vers la femme, il dit à Simon, « Vois-tu cette femme ? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. » Mais elle les a mouillés de ses larmes. Elle les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé d'embrasser mes pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi, je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme, « Tes péchés sont pardonnés. » Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, « Qui est celui-ci qui pardonne même les péchés ?» Mais Jésus dit à la femme, « Ta foi t'a sauvée, va en paix. »
Amen. Voilà, nous avons Jésus qui est invité chez un pharisien, une autorité religieuse de l'époque. Il est au milieu d'autres autorités religieuses, il y a le pharisien, il y a des pharisiens, d'autres, des prêtres, ils sont là, les hommes saints de la ville. Donc ils invitent Jésus pour un repas. Mais pendant qu'ils sont réunis, il y a une femme, on suppose prostituée, parce que c'était écrit pécheresse, donc je ne vois pas autre chose que ça, une femme prostituée qui vient dans cette assemblée d'hommes, mais non seulement d'hommes, mais d'hommes religieux, élevé en dignité, ce qui était impossible. Déjà, une femme normale n'allait pas mettre pied dans cet endroit-là, avec ce genre d'assemblée, non seulement masculin, d'hommes masculins, mais aussi d'hommes pieux, entre guillemets, parce que le pieux, c'est celui qui croit en Jésus. Et ils sont là, et cet homme, cette femme a le courage d'entrer dans ce lieu. Pourquoi il a le courage d'entrer dans ce lieu? Elle a ce courage parce qu'elle a appris l'amour de Jésus pour tous les humains. Elle a appris que Jésus aimait tous les humains. Donc même si elle était prostituée, elle savait que Jésus n'allait pas la rejeter comme l'humanité, la société de l'époque l'avait rejetée elle. Elle savait que même si tout le monde veut lui lancer des pierres, Jésus interviendra. Et elle avait certainement entendu parler d'autres épisodes, notamment de la femme adultère,
que tout le monde voulait lapider, et Jésus est intervenu pour que personne ne la lapide, parce que Jésus leur a dit que vos péchés sont égaux à ses péchés, à elle. Dans le monde spirituel, voler équivaut à tuer. Donc vous voulez la lapider. Alors vous êtes sans péché, si vous êtes sans péché, lapidez-la. Et personne n'a osé, puisque chacun a vu en lui-même qu'il avait des péchés aussi. Et comme Jésus leur a informé que c'est aussi grave que le péché de cette femme, personne n'a pu lapider cette femme. Certainement, celle-ci avait entendu parler de cette histoire. Elle savait que sur terre, il y avait au moins une personne qui pouvait la supporter. Non pas supporter son péché, mais la supporter. L'accueillir, discuter, parler. Voilà. Et la sauver de surcroît. Elle s'est dit, si je rate l'occasion aujourd'hui, je ne sais pas si je le verrai encore. Aujourd'hui, il est avec tous ces hommes religieux. Ça ne va pas être facile d'entrer dans ce lieu. Mais moi, je n'ai que cet homme qui puisse m'accepter, me soigner, me laver et me donner une vie nouvelle. Il n'y a que lui, parce que dans la société, tout le monde me voit comme une saleté vivante. Il n'y a que lui. Vous voyez, quand elle entre, effectivement, Jésus ne la rejette pas. Elle arrive même à toucher physiquement Jésus, mais Jésus ne la rejette pas. Or, c'était grave. D'ailleurs, les autres autorités religieuses qui étaient là, elles se sont dit, mais comment Jésus qui est saint accepte que cette femme le touche? C'est pas normal. Et la femme, elle pleurait. Elle devait pleurer de joie et d'amour, de se dire, mais comment cet homme, il affronte tous ces messieurs arrogants, pieux, religieux, il les affronte en acceptant que je le touche. Il les affronte pour moi, une pécheresse. Alors elle pleurait d'amour et de reconnaissance, de sentir que Jésus, s'il faisait cela, c'était pour, en définitive, pardonner tous ses péchés. Alors elle était dans la joie, dans la paix, et elle a commencé à pleurer de joie. Et Jésus a répondu, parce qu'il a lu, parce que Jésus pouvait lire ce que les autres pensaient. Ces gens-là, dans leur cœur, ils se sont dit, mais comment ils osent se laisser toucher par cette dame sale? Jésus dit, Simon, quand tu as deux débiteurs, il y a un qui te doit 500 000 euros, l'autre te doit 500 euros. Maintenant, quand tu décides que leurs deux dettes sont annulées, qui sera le plus content? Simon dit, mais celui à qui j'ai remis sa dette de 500 000 euros? Elle dit, voilà, c'est le cas entre toi, c'est la même chose avec toi et cette dame. Toi, Simon, tu te crois religieux, tu te crois correct, tu te crois pardonné que de peu. C'est pourquoi ta reconnaissance envers Dieu, elle est modulée, elle est faible. Mais elle sait qu'elle a été pardonnée de beaucoup. Elle sait qu'elle était très, très sale. Alors aujourd'hui, qu'on lui pardonne, elle ne sait même pas comment manifester sa reconnaissance tellement elle est grande. Alors elle s'est limitée à pleurer sur moi et à essuyer ses larmes avec ses cheveux. Donc elle s'est donnée entièrement dans sa reconnaissance. C'est une reconnaissance totale. C'est une reconnaissance qui vient des tripes, parce qu'elle sait d'où elle vient. Mais toi, tu ignores d'où tu viens. Tu penses que tu n'es pardonné que de peu, peut-être parce que tu n'as jamais tué, tu n'as jamais volé. Mais Dieu sait que tu as fait d'autres mauvaises choses. Tu as certainement eu de mauvaises pensées, tu as jalousé peut-être. Pour Dieu, c'est pareil. Tuer, jalouser, mentir, c'est la même chose. Parce que tout a une seule substance dans le mal, c'est le mal. Donc tu ne peux pas dire c'est différent. Dans le spirituel, le mal, c'est le mal. Que ça se manifeste par le vol ou le meurtre, c'est le mal. Et donc quand toi tu penses que tu es pardonné de peu, tu es dans l'erreur. C'est ça notre enseignement d'aujourd'hui. De quel côté tu te trouves? Du côté du pharisien qui se croit pardonné de peu. C'est pourquoi il est léger avec Dieu. Oh, il fait ce qu'il faut, hein, humainement parlant. C'est-à-dire qu'il est habillé en tenue de prêtre, d'homme religieux. Il va aux heures prévues au temple. Et il essaie de lire la loi à sa maison aux heures prévues. Mais aux yeux de Dieu, ça demeure un pécheur, comme tous les autres pécheurs. Mais aux yeux des hommes et à ses propres yeux, il paraît mieux. Mais aux yeux de Dieu, non. Il est écrit dans Romains 3, 23, « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Il est écrit dans Romains 3, 10, « Il n'y a point de juste, même pas un seul. » Aux yeux de Dieu, tous les humains sont comme cette femme prostituée. C'est le même péché, aux yeux de Dieu. Mais cette femme, la différence entre elle et nous, c'est qu'elle, elle en avait conscience. Mais alors que les humains, de l'autre côté, ceux qui, les religieux, eux, ils n'en avaient pas conscience. D'ailleurs, ils servent Dieu d'une manière bien rationnelle, bien gérée par eux-mêmes. Alors que ce que Dieu veut, c'est qu'on soit comme cette femme qui livre tout son être pour adorer Dieu. Donc, elle livre ses larmes coulent sur les pieds de Jésus. Elle prend ses cheveux, elle essuie les pieds sales. Elle les essuie avec les larmes qui sont tombées, elle les essuie avec ses cheveux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle paye d'elle-même pour adorer Dieu. Alors que les autres, comme nous connaissons au temple dans Luc 21, au premier verset, c'est peut-être mieux qu'on lit ça, Luc 21, au premier verset, à partir du premier verset.
Jésus, ayant levé les yeux, vit les riches qui mettaient leurs offrandes dans le tronc. Il vit aussi une pauvre veuve qui y mettait deux petites pièces. Et il dit, « Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres, car c'est de leur superflu que tous ceux-là ont mis des offrandes dans le tronc, mais elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle avait pour vivre. »
Voilà ce que Jésus dit. Cette veuve a mis tout ce qu'elle avait. Donc, elle a payé de sa vie son adoration à Dieu. Alors que les riches, ils ont des millions. Qu'est-ce qu'ils vont donner? Ils vont donner 2000, 1500, 3000. En absolu, ça paraît plus que les deux pites de la veuve, les 5 euros de la veuve. Mais sauf que la veuve, elle n'avait que ces 5 euros-là. Alors que les riches, ils ont des millions. Jésus dit, mais vous voyez, cette veuve, elle a donné tout ce qu'elle avait. Elle a payé de sa vie. Au fait, sa reconnaissance envers Dieu est tellement grande que la chose la plus importante qu'elle peut donner, c'est sa propre vie. Oh, sa vie s'est résumée sans ces 5 euros-là qui lui restaient pour vivre. Et elle donne ça à Dieu, alors que les riches, ben, ils font un petit calcul, hein, simple. Ils trouvent que, bon, 1500, c'est beaucoup par rapport aux autres. Et là, je parle aux gens qui se comparent aux autres. Il y a un tel qui se limite à 500. Moi, si j'adore à 1000, c'est bien. Mais non, tu n'as pas à te comparer aux autres. C'est personnel. Mais il y a un tel qui vient une fois par mois. Ben, n'est-il pas bien avec Dieu? Pourquoi moi, je viendrai plus de 3 fois? Voilà. Donc, tu te compares aux autres. Et ces riches-là se comparaient aux autres en disant, mais moi, j'ai mis 1500. Je ne pense, nous ne devons pas être 3 à avoir plus de 1000. Mais Jésus dit, mais c'est rien. Vous faites de l'adoration calculée. De quel côté tu es? De l'adoration calculée. Adoration de riches. Adoration ce qu'on a lu des pharisiens. Jésus dit, mais c'est normal, parce que vous, dans votre tête, vous avez été sauvés que de peu. Cette femme, dans sa tête, elle a été sauvée de beaucoup. Écoutez ce que dit l'un des disciples de Jésus, que nous tous nous aimons le plus. C'est le frère Paul. Et que nous considérons quelqu'un de très élevé, de quelqu'un qui a servi Dieu à 100%. Nous lisons dans 1 Timothée 1,15. Tous ces deux textes-là, ce n'était pas prévu. Nous les lisons parce que je ne veux pas que ça sorte de ma bouche. Il faut que ça se voit que c'est écrit. Ce monsieur qui va parler là, quand on va lire, ce monsieur, nous le considérons comme l'un des meilleurs. L'un des meilleurs parce qu'il a vécu pour Jésus à tellement à 100% qu'il ne s'est même pas marié. Nous le considérons comme l'un des meilleurs. Il a consacré toute sa vie à Jésus au point qu'il est mort avec la tête coupée à cause du nom de Jésus. Mais regardez ce que lui dit de lui-même, 1 Timothée 1,15.
C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier.
Voilà. L'homme que nous, les chrétiens, nous considérons comme étant l'un des meilleurs de Dieu, de tous les temps, mais lui, il dit que c'est une chose digne et certaine d'être reçue que Jésus-Christ est mort pour les pécheurs, dont je suis le premier. Lui se considère comme le premier des pécheurs. Donc le plus grand des pécheurs, voyez, c'est ce qu'il veut dire, ce n'est pas le premier en temps, puisque lui n'est pas, il est né bien après beaucoup d'autres personnes. Hein. Le premier, ce n'est pas le premier en chronologie, hein. Chronologiquement, c'est le premier en quantité. Il dit, donc je suis le premier. Pourquoi lui se considère comme le premier? Alors que si nous devons élire un jury qui fasse le classement, on mettait pas Paul, nous mettrions pas Paul en premier. Mais lui-même se considère en premier. Pourquoi? Parce qu'il considère que chacun de ses péchés sont très grave. Chacun de ses péchés est très grave, comparable à un meurtre, comparable à un assassinat, comparable à la prostitution, en comparaison avec la sainteté de Dieu. Donc Paul ne se compare pas aux autres en disant « je pêche moins que les autres ». Il se compare à la sainteté de Dieu, à la pureté de Dieu, et il se sent très sale au point de se considérer comme étant le premier des pécheurs. Alors, comment, dans ce cas-là, nous étonner de sa vie? Nous connaissons comment a été sa vie. Paul a vécu à 100% pour Jésus, il ne s'est même pas marié. Il a passé son temps dans les routes, dans les villes, pour prêcher l'évangile. Il a dit, si Christ est mort pour moi, moi aussi je suis mort pour lui. Pourquoi? Parce que sa reconnaissance était grande. Pourquoi? Parce qu'il s'est considéré un grand pécheur. C'est pourquoi sa reconnaissance était grande. Voilà notre premier point. Le champ des rachetés vient du fait que chacun d'eux considère qu'il est le plus grand des pécheurs et qu'il a été pardonné. Alors, il est étonné d'être pardonné. Et cet étonnement produit l'émerveillement. Et l'émerveillement produit le service pour l'Éternel, dans l'adoration et dans toutes sortes d'obéissances à ses instructions. Parce qu'il est dans une reconnaissance profonde. Mais celui qui a été pardonné de peu est peu aussi reconnaissant. Voilà la différence. Tu es où? Chez le pharisien? Chez les riches, ou bien du côté de la veuve, du côté de la prostituée, ou du côté de Paul. Je te propose d'être du côté de Paul, du côté de la veuve, de la prostituée, parce que ces gens-là, au moins, reconnaissent que leur péché était grave. Mais toi, tu te fais de fausses visions, de faux raisonnements, comme quoi tes péchés sont légers. C'est faux. Tous les péchés sont graves. Et chacun doit se sentir dans une joie ineffable d'avoir été pardonné. Il doit même s'en étonner, mais il m'a pardonné. Ah bon? Mais si tu t'en étonnes même pas, c'est que ton orgueil persiste encore. C'est que tu n'as pas vraiment changé. Normalement, un vrai enfant de Dieu doit se dire, ah Seigneur, mais moi je n'étais pas digne, qu'est-ce qui t'a pris de me sauver? Mais si tu ne te dis pas ce genre de choses, c'est que tu te considérais bon avant alors. C'est que tu te comparais à certaines personnes et tu te considérais mieux. Tu es dans l'erreur. Tu es dans l'erreur. Une fois, j'ai discuté avec une chrétienne qui ne comprenait pas d'où venait son mal-être. En discutant, elle a fini par m'avouer qu'avant d'être chrétienne, Elle avait fait toutes sortes de, elle avait de sciences occultes, elle était chez les voyantes, elle a fait des mauvaises choses spirituelles. Elle dit, mais je recherchais la divinité. Et puis, je lui ai posé la question, mais quand tu es venu en Christ, est-ce que tu t'es repenti de ton ancienne vie? Elle dit, ben non, puisque je cherchais Dieu. Elle dit, ben voilà. Donc, dans ta vie, tu ne t'es jamais repenti. C'est normal que tu sois malheureuse. Si tu t'es jamais repenti, donc tu as toujours cru être bonne. Donc c'est ça le problème. Tu n'as pas la vie de Jésus en toi. Parce que quelqu'un qui se croit toujours bon n'a pas la vie de Jésus. Celui à qui a la vie de Jésus va considérer ça comme une grâce. Tellement lui-même se considère comme un échec vivant. Mais si tu ne te réalises pas ça, que tu as été mauvaise autrefois, tu ne peux pas recevoir la vie de Jésus. Jésus est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus, pas les bons. C'est ça la réalité. Pourquoi le champ de racheter, Mais à cause du péché, il nous a sauvés du péché. Mais est-ce que nous rendons compte de la, de dégâts du péché? La guerre en Ukraine, c'est le péché, c'est à cause du péché. La Seconde Guerre mondiale, c'est à cause du péché. Il faut qu'on donne des exemples graves pour qu'on se rende compte. Parce que quand tu penses juste à, comment dire, à la cigarette, à peut-être un peu de cannabis, tu ne te rends pas compte de la puissance du péché. On m'a parlé d'une histoire vraie. Je crois que j'ai vu ça à la télé, un documentaire, où un monsieur était tellement... Non, ce n'était pas à la télé, j'ai lu plutôt. Il était tellement esclave de la drogue que quand il a pris un peu d'argent, alors qu'il avait un bébé qui n'avait pas de lait, il s'est précipité à aller acheter de la drogue. Mais tu vas le condamner, hein? Mais non, Jésus ne le condamne pas s'il vient à lui. Pas plus qu'il t'a condamné quand tu es venu à lui. Parce que Jésus sait que tout ça, c'est le principe du péché. Toi, tu vas dire, mais c'est horrible quand même, jusqu'à ignorer un bébé. Mais c'est parce que cet homme a négligé le mal. Et voilà ce que le mal a pu faire en lui. C'est qu'il a pris l'argent, au lieu d'acheter le lait pour son bébé, il est parti acheter le cannabis, la drogue. Tu es horrifié, mais ce sont les conséquences du péché. Le péché détruit l'homme, avilit l'homme. Essayez de vous renseigner sur l'histoire de l'Amérique, surtout la partie États-Unis. Surtout la partie États-Unis. Vous allez apprendre comment ils ont tué les Indiens. Vous allez pleurer. Peut-être vous n'avez jamais pleuré de votre vie, mais si vous apprenez comment les États-Unis se sont constitués en éliminant les Indiens, vous allez pleurer. Mais tout ça, c'est dû à quoi? Au péché. Au péché qui a fait voir à ces gens-là que les Indiens étaient comme des animaux, alors que ce n'étaient pas des animaux. C'est des humains que Dieu a créés à son image. Tout ça, c'est le mal. Le racisme vient du quoi? Vient du péché. Le péché est mauvais. Peut-être que toi, tu te contentes à ce que tu appelles un petit péché, mais pour Dieu, c'est le même principe, c'est le principe du mal. Le mal détruit. L'exploitation de l'homme par l'homme, c'est dur quoi. Aujourd'hui au Bangladesh, c'est des enfants qui travaillent pour que nous on ait des t-shirts ici. Ils sont exploités. C'est dur au péché. Vous allez dire, ah oui, mais peut-être c'est parce que c'est les Occidentaux qui vont là-bas les exploiter. Mais ne vous en faites pas, le mal c'est le mal. Le mal ça peut tuer même son propre enfant. Ici en Occident, dans les années 1800, vers la fin 1900, il y avait ce qu'on appelle la révolution industrielle. En Angleterre, des enfants de 8 ans allaient aux mines. Je pense que ceux qui ont fait un peu les études en France connaissent le livre de Victor Hugo, Les Misérables, où il décrit la condition des enfants en France à l'époque. C'est horrible. Donc c'est le même principe. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui ça s'applique aux enfants de Bangladesh que ça ne s'appliquerait pas aux enfants de France. Ils le feront même aux Français s'il le fallait. Ces gens-là qui sont remplis de mal, mais ces gens-là qui sont remplis de mal, ils ont commencé petits comme toi dans le mal et ça a grandi. Aujourd'hui, peut-être tu n'es qu'un ouvrier, tu n'as pas leur cœur, mais on va te donner une place de cadre et puis une place d'adjoint, du directeur. Et petit à petit, tu reçois leur cœur, tu reçois la même chose parce que le même principe est là, le principe du mal. La petite colère que tu peux avoir, c'est le principe du mal. Tu te couches avec la colère, c'est le mal. C'est la même chose que quelqu'un qui se couche avec des esprits d'empoisonner quelqu'un d'autre. C'est pareil pour Dieu. Et donc, quand maintenant les rachetés se disent, mais Dieu m'a sauvé de cela. Normalement, il devait m'écraser, il devait me condamner. Mais Christ est mort pour moi. Ils sont dans la reconnaissance, ils chantent. Ils se disent, mais si j'étais mort avec mes péchés, mais Jésus a eu pitié de moi, il m'a sauvé. Ils ne sont pas dans la polémique à se comparer à d'autres. Oh, on ne m'a pas dit bonjour. Non, lui, quand il se retrouve devant Jésus, ils sont emportés. Ils sont emportés parce qu'ils se disent, je viens de loin. Mais celui qui a été sauvé de peu ne peut pas ressentir ces choses-là. Nous lisons dans le psaume 32, 1 à 6. Psaume 32, 1 à 6.
De David, cantique. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, car la nuit et le jour, car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Et tu as effacé la peine de mon péché. Qu'ainsi, tout homme pieux te prie au temps convenable. Si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement.
Amen, amen. Il dit, heureux la personne qui est pardonnée. Alors, c'est une invitation à avouer. Il dit, moi j'ai avoué mes péchés et Dieu m'a pardonné. Alors, c'est une invitation à ce que chacun de nous avoue. Avoue que tu n'es pas bon. Avoue que tu as parfois de mauvaises. Avoue ça à Dieu. Il dit, je n'ai pas caché mes transgressions. Mais voilà, maintenant, je suis hyper heureux parce qu'en avouant tout, Dieu m'a pardonné de tous les péchés. Mais en cachant certains, ben Dieu ne va pas plus te pardonner. Et tu es malheureux. Est-ce qu'on se rend compte du poids du péché? Vous savez, dans Genèse, au chapitre 3, on nous montre le premier péché comment c'est arrivé. L'homme a voulu rivaliser avec Dieu. C'est ainsi qu'il a péché. Alors, il nous est dit que quand il a péché, Dieu lui a dit que désormais les choses vont devenir dures pour toi. Le travail, tu vas gagner ton salaire, ton revenu à la sueur de ton front. Ta femme va accoucher difficilement. Et la terre sera une terre parfois ennemie parce qu'il va naître des ronces, des épines, alors que ce n'était pas prévu ainsi. Donc les choses vont devenir difficiles pour toi. Et donc j'ai compris quand on était au Maroc que finalement, j'ai compris que au fait, la vie de l'homme, tout ce qu'il fait dans sa vie, c'est pour essayer de réparer la malédiction du péché. C'est-à-dire, Dieu, dans la malédiction du péché, dit, mais en péchant, tu as tout détruit, tu vas commencer à tomber malade. Il va y avoir des éruptions volcaniques, le travail sera dur, l'accouchement sera difficile. Eh bien, tout ce que nous faisons aujourd'hui, c'est quoi? C'est que c'est étudier. Mais tu étudies pourquoi? Pour avoir un bon travail. Pourquoi pour avoir un bon travail? Pour avoir une belle maison, pour avoir un certain confort. Mais tout ça, nous avions tout ça au jardin d'Éden. En fait, tout ce que nous faisons, c'est une course à vouloir arranger ce que le péché a détruit et ça ne marche pas. Les problèmes continuent, chikungunya, Covid, ceci, les problèmes continuent, les guerres continuent. On essaie de faire l'ONU pour qu'il n'y ait pas de guerre, les guerres continuent. Avant l'ONU, c'était la Société des Nations, les guerres ont toujours, il y a eu la Deuxième Guerre mondiale. Après la Première Guerre mondiale, on fait la Société des Nations. Malgré ça, il y a une guerre plus grande. Et aujourd'hui, nous avons des missiles hypersoniques, donc avec des systèmes nucléaires terribles encore. Donc finalement, tout ce qu'on fait pour essayer de réparer les ruines du péché, ça ne marche pas. Et Dieu a envoyé son fils Jésus pour finir cet empereur qu'on appelle le péché. Le terminer comme David a terminé Goliath. Et quand Jésus-Christ vient à la croix, il prend tous les péchés, il les crucifie à notre place. Il ressuscite le troisième jour, le péché est vaincu. Désormais, ceux qui croient en Jésus sont au bénéfice de sa résurrection. Donc c'est ça la joie des rachetés. Quand ils pensent à ça, ils savent que ah, ma vie est en sécurité. Je travaille, mais je ne compte pas sur mon travail pour le bonheur. Mon bonheur est déjà retrouvé. J'ai retrouvé le bonheur par le pardon. Heureux la personne dont le péché est remis. C'est ce qu'on vient de dire dans le psaume 32. Donc David dit, j'ai retrouvé le bonheur par le pardon. C'est pourquoi les rachetés sont dans la joie. Je parle aux rachetés. Ne vous préoccupez pas des autres. Exprimez votre joie. Exprimez votre reconnaissance. Vivez ça. Ne vous préoccupez pas de chrétiens raisonneurs, calculateurs. Vous pensez à Jésus, ce qu'il a fait pour vous. Il vous a réconcilié au Père. Maintenant, c'est fini. En fait, tout ce qui était un problème, c'est fini. C'est fini. À la croix, Jésus a crié, tout est accompli. Donc, c'est fini. Désormais, quand nous avons un problème, nous nous tournons vers le Père. Mais, papa, c'est comment? Est-ce que tu peux intervenir dans cette affaire? Il dit, quand on rajoute au nom de Jésus, ah, là, tout est réglé. Donc, dès qu'on cite le nom de Jésus, c'est comme si l'audience est permise pour nous. Il nous écoute et il envoie la solution. Désormais, tout est réglé. Nous n'avons plus à courir après le vent. Travail, ceci, cela, et puis tu arrives à la retraite, tu meurs. Donc, tu ne profites même pas de ton travail. Non, nous avons le bonheur. Au moment même où nous avons cru en Jésus, nous sommes réconciliés avec Dieu. Toute la malédiction du péché, elle est chassée. Maintenant, c'est la porte du bonheur qui s'ouvre. Ce n'est pas un bonheur qui est forcément matériel, c'est un bonheur en esprit d'abord. Tu es pardonné, tu es en paix, et tu sais que ta vie est prise en charge par le ciel. C'est ça ce bonheur-là. Nous lisons 2 Rois 5, 14 à 16. 2 Rois 5, 14 à 16, nous allons voir le cas d'une personne qui a été guérie de sa lèpre. Il a été guéri de sa lèpre et il explique ce qu'il avait préparé pour donner à la personne qui la guérirait de la lèpre. Cet homme, c'était un général syrien qui avait la lèpre, un homme riche, un homme important en Syrie, et sa servante, sa domestique lui dit à sa femme, « Mais si le maître peut aller en Israël, il y a un prophète qui peut le guérir. » Le monsieur, pris d'espoir, vous rendez compte, il est hyper millionnaire, et on lui dit, « Mais un prophète peut te guérir en Israël. » Il s'est dit, « Bon, je vais mettre tous les moyens et je vais préparer ce qu'il faut pour payer la personne qui va me guérir. » Parce qu'il considère que quand tu as la lèpre, tu as tout perdu. Parce que lui, c'est parce qu'il était général. Mais tous ceux qui avaient la lèpre comme lui, qui n'étaient pas généraux, ils étaient reclus dans des cavernes loin de la ville. Mais lui, puisqu'il est général, il était chez lui, mais personne ne voulait non plus le voir. Tu es général, tu as tout, mais la lèpre s'est manifestée. C'est fini pour toi dans la société. Alors on lui dit, mais il y a quelqu'un qui peut te guérir. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend sa suite, ils y vont. Et c'est ça qu'on va lire. Quand il est guéri maintenant par le prophète Élisée, voilà ce qu'il propose au prophète Élisée.
Il descendit alors et se plongea sept fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit, « Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Et maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. » Élisée répondit, « L'Éternel dont je suis le serviteur est vivant. Je n'accepterai pas. » Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa.
Alors, ce monsieur, puisque bon, là, on ne nous montre pas ce qu'il a ramené, on va voir ça. Bon, quand on lit la suite du texte, on voit que c'était des chaînes, des bijoux en diamant, en or, et des vêtements précieux qu'il avait ramenés pour donner à l'homme de Dieu qui allait le guérir. Mais l'homme de Dieu dit non, je ne peux pas accepter. Ce n'est pas moi qui t'ai guéri, je n'accepte pas ton cadeau. C'est Dieu qui t'a guéri. Et c'est là que le monsieur dit, le véritable Dieu se trouve en Israël. Mais qu'est-ce que nous voyons là? Que quelqu'un, puisqu'on l'a guéri de la lèpre, il avait prévu une richesse qui allait faire de la personne qui l'a guéri un millionnaire aussi. Parce qu'on va voir le détail de ça dans la suite quand on lit le texte. C'était beaucoup, beaucoup de richesses. Mais Élisée a refusé. Il a dit, c'est pas moi qui t'ai guéri, c'est Dieu. Moi, j'ai fait la volonté de Dieu, un point, c'est tout. Tu peux retourner ainsi. Et cet homme a reconnu que non seulement Dieu était grand, mais son serviteur était aussi correct. Voilà. Il n'a pas voulu prendre la place de Dieu. Alors, si un homme peut donner ça à cause de la lèpre, mais je vous informe que le péché, c'est pire que la lèpre. Parce que le péché va te détruire à l'intérieur. Va produire les maladies, produire les divorces, produire les querelles, produire les guerres, produire la division et produire quoi? La mort. Et non seulement la mort physique, mais ce qu'on appelle la deuxième mort, c'est-à-dire le jour du jugement dernier, tu seras devant Dieu. On va te dire, mais et alors? Et alors, mais je n'ai pas accepté Jésus. On te dira, mais ta place n'est pas ici au paradis. Tu dois aller dans la place des mauvais, réservée pour le diable, dans le feu éternel. Donc le péché t'amènera au feu éternel, le jour du jugement. Parce que Dieu ne peut pas cohabiter avec le mal. De même que toi, tu ne peux pas cohabiter avec tes poubelles. Je voudrais bien te voir prendre tes poubelles, mettre sur ton lit et dormir à côté, comme voisin. Voilà. Tu ne vas pas le faire. Et vous voulez que Dieu cohabite avec le mal, il ne va pas le faire non plus. Il a réservé un lieu où le mal sera contenu. Ça s'appelle le feu éternel. Et ce lieu accueillera tous ceux qui ont le péché. Maintenant, toi, imagine que tu as cru en Jésus. Tu arrives le jour du jugement. Les anges prennent le livre de ta vie pour voir là où se trouve le péché. Ils vont voir des pages blanches. Tous tes péchés ont été effacés par Jésus. Mais quelle joie pour toi. C'est ça le chant de racheté. C'est pourquoi les rachetés, ils chantent, ils ne passeront plus en jugement. Jean 5, 24 dit, « en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi, Jésus dit, il ne passera plus en jugement, il est passé de la mort à la vie. » C'est pourquoi les rachetés sont contents. Pour comprendre leur joie, eh bien, il faut te laisser sauver toi aussi. Sans être sauvé, tu ne peux pas comprendre. Vous savez, on a beau m'expliquer les conséquences du chikungunya, j'ai du mal à comprendre qu'un homme bien constitué soit incapable de prendre un verre et de boire de l'eau parce que ses articulations n'obéissent pas. Alors, vous voyez, il y a des choses qu'on ne peut comprendre que si tu passes par là. Malgré les explications, j'ai du mal à m'imaginer que j'atteigne un point où je ne puisse pas prendre un verre d'eau quand même, tout en étant bien constitué toujours. Ben, la joie de racheter, tu ne peux pas comprendre ça tant que toi-même tu n'as pas été racheté. C'est la même chose. Il faut accepter que Dieu te rachète. Deuxième raison, nous lisons ça dans Luc 15, 4 à 10. Luc 15, 4 à 10, ensuite Luc 15, 11, 32. Nous commençons par Luc 15, 4 à 10 et nous finirons par Luc.
Luc 15, 4. Lequel d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller à la recherche de celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la trouve? Lorsqu'il l'a trouvée, il la met avec joie sur ses épaules. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. » De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 autres justes qui n'ont pas besoin de repentance.
La deuxième raison des champs de racheté, c'est qu'eux-mêmes ne comprennent pas pourquoi il y a la fête pour eux. Tu arrives au ciel, mais il y a une fête. Mais qu'est-ce qui se passe? Parce que tu es sauvé. Mais tu te dis, mais donc, je ne savais pas que j'étais si important. Je ne savais pas que Dieu m'aimait autant. Et toi aussi, tu te mets à danser. Parce que tu trouves que tout le monde danse pour toi. Eh bien, toi aussi, à cause de toi, toi aussi, tu te mets à danser. C'est ça les champs de racheté. Ils ne comprennent pas. Mais Dieu tient en moi au point qu'il y a la fête au ciel lorsqu'il y a une seule personne qui est sauvée. Vous savez, c'est l'un des rares endroits dont on dit qu'il y a fête au ciel. C'est l'un des rares moments. C'est ces moments où on parle de fête. Hein. Il y en a peut-être 6 ou 8 dans la Bible de fête par rapport au ciel. 6 ou 8. Et dans ces 6 ou 8, il y a ces deux là où on dit, mais c'est quand une âme est sauvée qu'il y a la fête au ciel. Alors tu te rends compte de ton importance aux yeux de Dieu. Dieu t'aime tellement que quand tu es sauvé, le meilleur exemple, c'est le sourire d'une maman quand elle voit son enfant, c'est ça, ou qu'elle n'a pas vu depuis 1 mois, 1 semaine. Pour moi, c'est l'un des plus beaux spectacles. Mais regardez maintenant le visage quand elle regarde son enfant. C'est ça qu'on peut un peu comparer à la joie au ciel. C'est-à-dire que c'est sa joie. Oh, c'est sa joie. Un jour, j'avais demandé à Dieu, mais pourquoi, alors que tu sais bien qu'une femme seule aura du mal à élever son enfant, c'est pourquoi on voit des délinquances, pourquoi tu as permis que ce soit si facile qu'elle puisse enfanter? J'ai reçu une des réponses, hein. Je dis toujours, Dieu seul connaît tout, mais une des réponses a été que c'est une des choses qui procure le plus de joie à une femme, c'est pourquoi Dieu accorde quand même. Voilà, donc c'est... Et je pense qu'il a voulu nous montrer ce que lui... Comment lui nous considère. Il fallait qu'il y ait un être qui soit un peu comme lui, quoi. Voilà, qu'on voit. Et tu arrives au ciel, tu vois, on vient te prendre comme si tu étais le prince. Mais je pense qu'à ce moment-là, toi-même, tu cherches la saleté, mais tu ne trouves pas la saleté effacée par le sang de Jésus. Et toi aussi, tu commences à danser. C'est ça le chant de racheté. Nous continuons toujours dans les champs de racheté, Luc 15. L'autre, vous savez, c'est mon texte préféré. Hein. On va lire encore. Luc 15, 11 à 32.
Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, parti pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il dit, « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et revêtez-le. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, « Ton frère est de retour et ton père a tué le veau gras parce qu'il l'a trouvé en bonne santé. » Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. » « Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. » Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir, parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé.
Amen. Amen. Ce garçon, il rentre chez lui, le cœur repentant, à cause de tous les péchés qu'il a commis, à cause de toutes les bêtises qu'il a faites. Il se dit, bon, je vais aller m'humilier et demander pardon à mon père. Mais avant même d'ouvrir sa bouche, son père s'est déjà s'est jeté sur lui. Et lui dit à son père, « Oh papa, je te demande pardon. » Le papa dit, et lui dit à son père, « Tout ce que je te demande, c'est vivre ici, même en tant que domestique, serviteur, juste esclave, mais vivre ici. J'ai trop souffert à cause du péché. Je te demande de vivre ici maintenant. » Le papa dit, oh, non seulement tu vas vivre ici, tu retrouves ta position de chef dans ma maison. Le fils aîné, quand il vient, il dit, mais je ne comprends pas, mon petit frère a fait n'importe quoi. Et c'est, voilà comment mon père l'accueille. Mais oui, mais il l'accueille parce qu'il lui a pardonné. Et il y a une fête, le papa ordonne une fête. Maintenant, on fait une fête pour toi, et toi, on te trouve triste. Mais les gens vont dire, mais je ne comprends pas. Les invités vont dire, mais on a fait une fête à l'occasion de son retour, mais lui-même, il est triste, c'est qu'il n'a pas compris ce qui se passe là. Et c'est le cas de beaucoup de chrétiens. Ils n'ont pas compris ce qui se passe. Il y a la fête au ciel à cause de lui, mais lui, il est en train de bouder. Parce qu'on l'a mal regardé par quelqu'un. Il est en train de bouder parce que Dieu ne lui a pas répondu sur terre. Mais les anges regardent et disent, mais c'est des fous les gars. C'est des fous. Mais ici, il y a la fête. C'est comme, il y a une personne qui a rencontré, qui est partie au ciel et qui a vécu un temps avec Dieu et il a vu les gens entrer dans une église pour prier. Et il regardait, plutôt la réaction des anges. Et les anges étaient contents pour chaque personne qui entrait. Oh, mais un tel est venu. Lui, en raisonnement, il me dit, mais l'autre, là, il s'est absenté trop beaucoup de fois. L'autre, je lui reproche telle chose. L'autre, mais les anges étaient contents tous de les voir. Pourquoi là où il y a la joie, toi tu viens mettre ta tristesse? Au ciel, il y a la joie à cause de toi et toi tu es le seul à être triste. Donc la deuxième raison du chant de racheté, mais c'est le chant qui le précède déjà au ciel. Donc si toi tu chantes pas toi de racheté, mais il y a des chants en ton honneur à cause de toi plutôt au ciel, en l'honneur de Dieu à cause de toi, il y a déjà. Mais tu dois entrer dans la danse, entre. On voit tout seul, les bras croisés, en train de réfléchir, tu réfléchis à quoi? Célèbre l'Éternel, tes péchés sont pardonnés. Et là où tu es, il y a la fête au ciel, mais sois en phase avec ce qui se passe pour toi au ciel. Sois en phase avec ça. Et nous finissons avec Romains 5, 5 à 9. C'est la deuxième raison. Puisqu'il y a la fête au ciel, à cause de toi, mais sois en phase avec ça. Sois en fête. Romains 5, 5 à 9.
Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Car, lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère.
On continue.
Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie.
Amen. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire alors que nous étions méchants, Christ est mort pour nous à la croix. Christ n'a pas attendu que tu sois bon. Il a anticipé, il est mort pour toi à l'avance. Le temps que toi, tu comprennes ton erreur, tes péchés pour venir recevoir ton salut à travers sa mort à la croix. Il l'a fait à l'avance. Il n'a pas attendu que tu sois bon. Le frère Paul dit, mais alors que nous étions mauvais, il est mort pour nous à la croix. Bon, maintenant que nous sommes à lui, qu'est-ce qui ne nous est pas réservé? Pourquoi me refusera-t-il la nourriture? S'il est mort pour moi à la croix, qu'est-ce qu'il ne fera pour moi maintenant que je suis dans son camp? Il va faire plus. Nous serions sauvés par sa vie. Si nous avons été sauvés alors que nous étions morts, maintenant que nous avons la vie, nous serons davantage exaltés, rempli de paix, de joie, de sécurité, puisque nous sommes à lui maintenant, c'est une autre dimension. C'est la troisième raison. Nous devons célébrer Dieu parce que nous savons que notre vie est réglée. Tout est réglé. Tout est bon. Cherchez d'abord le royaume des cieux et vous aurez le reste par-dessus tout. Maintenant que je suis réconcilié avec Dieu, donc j'ai plus que Adam dans le jardin d'Éden, tout est à ma disposition. Le frère Paul dit, nous sommes pauvres, mais nous possédons tout. Pourquoi nous possédons tout? Parce que tout ce qui est sur terre, c'est à notre Père qui est au ciel. Donc c'est à nous aussi. Mais Dieu va te disposer ces choses au bon moment. Mais tu n'es plus comme quelqu'un en crise, en difficulté, en train de courir après le vent, boulot, dodo, fais-ci, cela pour essayer de t'en sortir. Non, là tu t'en es déjà sorti parce que tu es enfant de Dieu. Maintenant, le reste, Dieu lui-même s'en occupe. Tout le reste. C'est pourquoi Jésus a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils imposeront les mains aux malades, ils seront guéris. Ainsi de suite, parce que si c'est réparé au ciel, si à la croix il a tout accompli, c'est bon. Quand on croit en cela, eh bien, tout le reste est bon pour nous. Et du coup, tu te dis, mais puisque qu'est-ce qui enlève la joie? C'est les inquiétudes. Ce sont les inquiétudes. Mais toi, tu n'es plus en inquiétude puisque tout est assuré par Dieu. Tout est accompli. Comment tu peux être encore triste? C'est que tu n'as pas compris. D'où l'usage des gens comme nous pour nous rappeler ces choses afin que nous comprenions que nous changions de vie, que nous vivions dans la joie chaque jour, que nous exprimions le chant de racheté chaque jour. Voilà ce que Dieu veut pour nous aujourd'hui.